Fetia Saïdi, bonjour.
Bonjour.
Pour vous interviewer à mes côtés, Adèle Urvois. Bonjour Adèle.
Bonjour.
Ma première question, elle est très simple. Comment fait-on aujourd'hui pour être une femme journaliste engagée en Tunisie en 2016?
Pour être engagée et faire beaucoup de choses, tout simplement, il faut avoir de la passion. Il faut aimer ce qu'on fait et ce qu'on peut faire. Il faut être en même temps dans... l'esprit dedans, etc., dedans de soi-même, etc., tout simplement.
Vous êtes donc journaliste, sociologue, engagé en politique. On va aujourd'hui parler de lutte contre le terrorisme, de la place des femmes dans les médias tunisiens et plus globalement dans la société tunisienne. Tout d'abord, quel lien est-ce qu'on peut faire entre les attentats en Tunisie, en France ou en Belgique?
Bon, concernant le terrorisme, est un phénomène pour le moment international. Personne n'est à l'abri, aucun pays n'est à l'abri aussi concernant le terrorisme. C'est pour cela qu'il faut se préparer, il faut s'unir, il faut être solidaire, même à l'échelle internationale. Il faut nouer des relations, il faut éduquer à la paix et en même temps éduquer nos enfants aux valeurs des droits de l'homme pour pouvoir contrer ce mouvement, bien sûr. Et ces crimes surtout, et ces crimes, et pour alléger un peu les impacts des attentats terroristes, et pour en même temps préserver nos enfants et préserver bien sûr la jeunesse.
L'état d'urgence est toujours en alerte en France, en Tunisie. De gros moyens sécuritaires sont déployés. La société civile, vous le dites, a un rôle à jouer. Comment, plus précisément?
Comment la société civile peut-elle jouer un rôle? De toute façon, l'affaire du terrorisme, ou bien combattre le terrorisme, c'est une affaire de société, c'est une affaire en même temps de nation. Ça veut dire il faut créer des réseaux entre les différentes composantes de la société civile. Il faut trouver des passerelles entre la société civile ou bien les composantes de la société civile, ça veut dire les associations, et en même temps les politiques dans les partis, etc., et les organisations de l'État pour pouvoir contourner ce problème et pour pouvoir proposer une autre culture qui peuvent prévenir et qui peuvent éduquer et qui peuvent bien sûr préserver surtout les enfants, les femmes, les jeunes, etc., et pour inciter à la culture de la non-violence. Il faut trouver ces passages. C'est pas au niveau tout simplement de la Tunisie, mais même au niveau international. Il faut une stratégie contre le terrorisme, qui combat le terrorisme. Cette stratégie soit une stratégie, par exemple, pour moi, je le conçois, une stratégie au niveau, par exemple, de la Tunisie, mais cette stratégie doit s'étaler sur le régional et puis sur l'international. Et il faut faire des échanges aussi entre des échanges d'idées entre les différents partis, disons, c'est pas les partis politiques, mais les différents acteurs sociaux, que ce soit en France, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, que ce soit en Syrie, en Amérique, en Espagne, etc. Il faut créer cette mouvance à l'échelle internationale, transnationale, pour pouvoir édifier une société plus ou moins démocratique, pour lutter et pour en même temps voir le citoyen de demain ou bien le citoyen du monde, le citoyen international qui aime l'autre, où il y a un espace qui est plus ou moins réduit entre les deux sphères, surtout entre l'Orient et l'Occident. Il faut atténuer les images stéréotypées concernant ces deux pôles, voilà, l'Orient et l'Occident. Donc, on ne peut pas combattre tout simplement le terrorisme par toute affaire sécuritaire. Non, c'est à travers l'éducation, c'est à travers la culture, c'est à travers, bien sûr, ces relations de partenariat entre sociétés civiles, entre elles-mêmes et en même temps entre la société civile, ça veut dire les associations, les partis, et en même temps, cet partenariat doit dépasser la nation, doit dépasser le pays, par exemple, vers d'autres pays, au niveau par exemple méditerranéen, au niveau arabe, au niveau international, pour pouvoir diffuser la culture de la paix. Voilà.
Fetia Saïdi, vous faites partie d'une formation politique, Al-Massar, la voie démocratique et sociale, on va en reparler, mais votre secrétaire général Samir Bentayed a récemment déclaré qu'aucune politique n'était mise en place aujourd'hui. Est-ce que c'est une réalité?
Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Aucune politique n'est mise en place pour le moment parce que nous avons un gouvernement malheureusement un peu faible. Il n'y a pas eu une politique qui combat réellement le terrorisme. Tout simplement, il y a une stratégie sécuritaire, pas une stratégie, par exemple, au niveau de la société. Et pour cela, le Massar appelle à cette stratégie nationale où toutes les parties doivent être impliquées avec la société civile et avec les différentes organisations de la société pour pouvoir contourner le problème du terrorisme, pour pouvoir préserver les jeunes et en même temps pour pouvoir sauver un peu la Tunisie. Hein.
Le danger est vraiment là
Le danger est là, le danger est là. Et on ne peut pas combattre le terrorisme tout simplement avec des affaires de sécurité. Oui, la sécurité, oui, pour l'effort de la police, des gendarmes, etc. Mais il faut un autre effort politique, culturel, où on doit résoudre un peu ou répondre un peu aux attentes des jeunes et résoudre un peu les problèmes socio-économiques. Tout est lié, tout est lié. Il faut donner de l'espoir aux jeunes. Il faut donner non seulement de l'espoir, donner l'espoir aux jeunes et en même temps les cultiver, impulser un peu l'esprit critique au niveau des jeunes, au niveau de leurs esprits, changer un peu les contenus de l'éducation, etc. C'est un travail à moyen terme et à long terme qu'on doit le faire et qu'on doit arriver là, mais on ne peut pas arriver tout simplement avec des vœux politiques, mais on doit réellement arriver lorsque toutes les parties concernées se mettent à table et discuter et dialoguer pour pouvoir trouver les solutions adéquates à ce danger. Voilà.
On va reparler des mots de la société tunisienne. D'abord, Adèle, toujours sur le terrorisme.
Oui, les djihadistes veulent implanter un émirat daïchien à Ben Gardène. Quelles en seraient les conséquences?
Heureusement qu'ils n'ont pas pu faire ça. Heureusement. Mais si on peut installer cette émara de Daesh à Ben Gardène, ça sera bien sûr très dangereux pour la société et ça sera bien sûr une implantation qui va être élargie petit à petit dans la société tunisienne et en même temps peut-être c'est pour combattre, c'est un point focal pour combattre l'Algérie en même temps. Tout est lié de toute façon. Mais heureusement, ils n'ont pas réussi. Et ils ne réussissent jamais en Tunisie parce qu'il y a la volonté des Tunisiens et il y a en même temps la volonté des jeunes et des femmes. Nous défendons la modernité et nous resterons des défenseurs de la modernité. Jamais un retour en arrière et un recul en arrière, voilà.
Mais malgré tout, l'Europe reste silencieuse face à cette situation. Comment jugez-vous ce silence?
Bon, l'Europe est restée silencieuse parce que, de toute façon, il y a des intérêts. Il y a des intérêts extérieurs. Combattre Daesh en même temps, c'est couper les financements. Hein. Il faut chercher les financements. D'où Daesh? D'où viennent les financements de Daesh? Il faut se poser ce genre de questions. Mais de toute façon, j'ai dit dès le début de cette interview que personne n'est épargné et aucun pays n'est à l'abri. Alors, c'est pour cela que j'appelle à cette stratégie internationale. Non seulement une stratégie au niveau de mon pays, mais en même temps une stratégie internationale pour combattre le terrorisme et pour bien sûr diffuser la culture du non-violence. Hein.
Vous appelez à la coopération, est-ce que vous y croyez? Vous l'avez
oui,
dit,
oui.
Il y a des intérêts.
Mais, même si j'ai dit il y a des intérêts différents, bien sûr. Les intérêts de l'Occident ne sont pas les intérêts de l'Orient. Il y a bien sûr des intérêts politiques, etc. Mais j'appelle à la collaboration et au partenariat entre les institutions de la société civile, entre les citoyens. Et avec cette mouvance citoyenne, on peut arriver à quelque chose. On peut faire de la pression sur les gouvernements, sur les États, etc. pour prendre des mesures. On ne peut pas applaudir toute seule.
Connaissez-vous la journaliste saoudienne Nadine Al-Boudaïr?
Non.
Elle a signé un papier en décembre 2015 qui débutait par une question. Comment réagiraient les musulmans si des terroristes chrétiens se faisaient sauter au milieu d'eux? Et elle interpellait quelque part les musulmans justement sur leur silence par rapport au terrorisme. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas en Tunisie, donc il y a des réactions face au terrorisme en Tunisie. Vous le disiez tout à l'heure avec les femmes et les jeunes notamment.
Bien sûr. Il y a des réactions et il y a un combat permanent contre l'obscurantisme, etc. Il y a ce combat permanent et la Tunisie n'est pas l'Arabie saoudite. Hein, et les femmes tunisiennes ne sont pas les femmes de l'Arabie saoudite. Mais je veux dire, entre parenthèses, qu'hier à Rennes, Chora qui vient de la Bosnie et moi-même et Roland Lévé, nous avons lancé une initiative qui part de Reims. Cette initiative a été lancée suite à une déclaration pour préserver les jeunes et pour prévenir et pour la prévention contre Daesh, pour réintégrer et pour appeler à des solutions, des programmes, etc. et pour créer cette solidarité entre citoyens et entre sociétés civiles pour pouvoir combattre ce danger que personne n'est épargné.
Intéressons-nous maintenant plus précisément au rôle des femmes dans cette lutte contre le terrorisme. Les femmes sont-elles les premières victimes de l'islamisme radical ?
Bien sûr, les femmes sont victimes de l'islamisme radical parce que l'islamisme radical et même l'islamisme politique, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas un islamisme modéré et un islamisme radical dans mon esprit. Il y a des représentations socio-culturelles imprégnées ou bien incarnées, qui incarnent un peu des stéréotypes dans la société tunisienne, bien sûr, et qui visent les femmes et qui voient les femmes en tant qu'objet sexuel, etc. Et c'est pour cela c'est combattre un peu la culture traditionnelle au sein de mon société ou bien dans mon pays dans la Tunisie, bien qu'il y a une avancée concernant la femme tunisienne par rapport aux autres pays arabo-musulmans. Cette avancée s'est inscrite depuis 1956 et avec le code du statut personnel, et après il y a beaucoup d'amendements concernant ce code du statut personnel à 93, etc. Et en même temps, en arrivant à la nouvelle constitution, nous avons des articles qui sont très avancés, même qui constituent une vraie avancée même par rapport à la constitution même française, parce que nous avons l'article 46 où il y a un engagement de l'État pour préserver les acquis des femmes, pour que l'État aussi garantisse la parité, l'égalité en l'égalité des chances entre les deux sexes et pour combattre les violences à l'égard des femmes. De toute façon, la situation de la femme tunisienne reste de toute façon un exemple par rapport aux autres pays arabo-musulmans. Et c'est pour cela que je dis que ni Daesh, ni l'intégrisme peuvent combattre notre Tunisie, parce qu'il y a cette volonté des femmes et cette volonté des jeunes qui vont dire tout le temps non aux violences, non au terrorisme et non à cette culture qui va nous faire pousser vers des siècles moyenâgeux. Hein.
Donc vous l'avez dit, les femmes luttent, disent non à l'intégrisme. La voix des femmes pèse-t-elle suffisamment pour contrer l'intégrisme ?
De toute façon, la voix des femmes a pesé. Parce que lors des dernières élections, ce sont les femmes qui ont monté, qui ont élu le président actuel, qui ont élu le premier parti, c'est qui est NIDA. C'est pour combattre l'intégrisme, c'est pour combattre l'esprit rétrograde. Ils ont voté les femmes pour la modernité. Et en même temps, ce n'est pas les femmes seules qui peuvent combattre. C'est une affaire de société. Ce sont les femmes, les organisations de femmes, c'est les organisations de la société civile. Et en même temps, il faut impliquer, bien sûr, les organisations de l'État.
Hein. Fethia Saïdi, donc, je rappelle que vous êtes journaliste tunisienne, sociologue également. On va parler plus globalement de la femme dans la société tunisienne avec Adèle.
Oui, le chômage des femmes est deux fois supérieur à celui des hommes. Comment l'expliquez-vous ?
Le chômage des femmes est supérieur. Oui, tout simplement, c'est la culture patriarcale. Parce que les femmes, jusqu'à maintenant, n'ont pas intériorisé suffisamment leurs droits au travail. Parce que dans l'imaginaire social, la femme, la place de la femme, c'est dans la sphère privée, et pas dans la sphère publique. Et c'est un peu partout dans le monde. Mais le droit au travail, c'est un droit qui n'est pas suffisamment intériorisé dans la société.
Toujours aujourd'hui.
Toujours aujourd'hui, bien sûr. Et il y a un taux d'analphabétisme un peu élevé concernant les femmes. Et c'est pour cela. Les femmes, il y a un taux de chômage un peu élevé par rapport aux hommes. Et en même temps, de toute façon, même les femmes, par exemple, lorsque une femme travaille dans une usine, par exemple, et après, elle se trouve licenciée du travail. Le BET ne considère pas que cette femme est encore active. Elle rentre dans l'inactivité, hein. Et c'est international, et c'est pour cela qu'il faut combattre, et il faut changer les attitudes, et changer la perception, et en même temps les représentations socio-culturelles concernant les droits des femmes. C'est pas en Tunisie tout simplement, mais à travers le monde, et c'est pour cela qu'il y a un mouvement pour les droits des femmes, un mouvement international, hein, pour faire la pression aux Nations Unies lors des conférences internationales, etc., international plutôt.
Et ça passera peut-être aussi par la jeunesse qui est également victime de ce
bien
chômage
sûr,
de masse.
Bien sûr, ça passe à travers la jeunesse et à travers les femmes, parce que les jeunes sont victimes aussi du chômage, mais non. Et il y a un taux très élevé par rapport au chômage entre les filles et les garçons. Il y a le taux le plus élevé, c'est au niveau des filles. Surtout concernant les diplômés. Hein.
Et pourtant, les femmes en Tunisie sont plus diplômées que les hommes.
Sont plus diplômées.
Et alors, comment on explique justement qu'elles soient plus au chômage alors?
Sont plus au chômage parce que c'est la crise pour le moment. Hein. C'est la crise. C'est la crise, pas de solution concernant l'emploi des jeunes pour le moment. Et malheureusement, avant Benkaden, il y a un appel pour un congrès sur l'emploi, mais malheureusement, l'État a bien sûr a annulé ces préparatifs parce qu'il y a le problème de Benkaden. Et ça, c'est, je trouve ça un peu aberrant parce que trouver des solutions pour les jeunes au niveau de l'emploi, même des solutions un peu urgentes, etc. Et en même temps travailler par exemple sur le terrorisme, ce sont deux choses qui s'interfèrent. Il n'y a pas une dichotomie entre les problèmes sociaux, économiques et ce problème d'intégrisme et de terrorisme.
Parce que la tentation pour les jeunes qui sont au chômage...
Bien sûr, la tentation est grande pour les jeunes. Et surtout si on sait et on savait depuis un bon moment que Daesh paye, etc., elle recrute des jeunes, etc., il y a de l'argent qui circule. Voilà. Alors, il faut résoudre les problèmes de chômage concernant qui touchent les jeunes pour pouvoir, bien sûr, combattre le terrorisme. Voilà.
Et peut-être en avez-vous entendu parler, une association a été créée en Tunisie pour que les jeunes puissent avoir accès à Internet afin d'offrir une autre voie que le terrorisme, vers le pacifisme cette fois. Est-ce que ça peut être une solution ?
Ça peut être une solution. Ça peut être une solution parce que, en même temps, on trouve pas tous les jeunes tunisiens connectés sur Internet. Il y a les jeunes dans les campagnes, il y a les jeunes pauvres, etc., etc. Mais ça peut être une solution. Ça peut être une solution dans par exemple, le but, par exemple, de sensibiliser à travers les réseaux sociaux, etc., dans le but d'échanger les idées. Mais c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut multiplier les efforts. Il faut multiplier les efforts et il faut faire, bien sûr, des réformes énormes au niveau de l'éducation, surtout concernant les contenus de l'éducation. Et c'est important parce que pour moi, bon, peut-être par défaut, par des formations professionnelles, puisque je suis sociologue, alors je prête beaucoup d'attention à la socialisation. C'est ça. La socialisation au sein de la famille, au sein de l'école, au sein de la société, et au sein de la société, il faut bien sûr multiplier, voilà, les associations, les groupes-pères, etc., et en même temps, les médias. Les médias, ce sont des institutions de socialisation pour moi et pour tous les sociologues, hein. pour tout sociologue, ce sont des institutions de socialisation, parce qu'à travers la radio, à travers la télévision, on peut faire passer des idées, on peut bien sûr impulser l'esprit critique, on peut changer un peu les attitudes, on peut changer un peu les représentations socioculturelles, on peut véhiculer des valeurs humaines, etc. Voilà. Les médias ont un rôle très important aujourd'hui, parce que nos jeunes sont branchés sur les radios, sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, etc. Alors il faut travailler au niveau de ces deux sphères. Les techniques de l'information, ou bien les réseaux sociaux d'un côté et en même temps les médias de l'autre côté. Voilà.
Fethia Saïdi, donc, vous en avez parlé, on va en venir aux médias en Tunisie, puisque vous êtes journaliste sur la chaîne publique tunisienne, c'est ça ? En radio également ?
Je suis, comme je dis, productrice animatrice, parce que je n'aime pas cette ticket de journalisme.
Pourquoi vous ne l'avez pas ?
Non, parce que le journalisme, c'est un diplôme. Et pour moi, je suis dans les médias. Bon, j'ai enseigné à l'Institut des sciences de l'information. J'ai enseigné durant 11 ans et j'ai beaucoup de mes étudiants qui sont journalistes. Mais ma formation, c'est la sociologie et je suis sociologue impliqué dans les médias, puisque je produis et en même temps je fais la présentation audiovisuelle. Voilà, je suis animatrice et présentatrice à la radio Tunis Culture et en même temps productrice à la télévision nationale. Voilà.
Et le fait d'être engagée en politique, est-ce que ça vous met dans une situation délicate ?
Non, pas du tout. Parce que je faisais ça depuis l'année 2000. Je suis productrice animatrice depuis 2000. Maintenant, j'ai 16 ans de travail. Et en même temps, j'ai toujours des émissions à la télévision et à la radio. Et je fais ça avec beaucoup de passion. Et en même temps, je traite des problèmes sociaux. Et je fais des débats, etc. Mais je donne pas, je respecte. Je respecte bien sûr mon métier et je respecte bien sûr la radio et la télévision, parce que j'essaie toujours d'être objective. Je suis pas avec ma casquette de politicienne ou bien d'une femme politique, même à l'enseignement. Hein. J'enseigne des étudiants, j'enseigne la sociologie, j'enseigne pas ce que le Massar dit et ne dit pas. Hein. Il faut être objectif, il faut faire la part des choses et je suis une personne, je dis que je suis professionnel, tout simplement. Je fais mon métier, là où je suis.
Et d'après vous, donc, les médias aussi ont un rôle à jouer dans la lutte contre
bien
le
sûr,
terrorisme ?
Bien sûr, bien sûr. Et les médias ont un rôle, et c'est pour cela, les médias et les sociologues aussi. Hein. Et les sociologues à travers les médias, parce que pour moi, par exemple, dans l'émission de la télévision, je rentre au plateau en tant que sociologue, je fais l'analyse sociologique des problèmes sociaux. Quel que soit ce problème. Et en même temps, à travers ces émissions, j'essaye, parce que j'ai un objectif dans ma tête, etc., mais un objectif aussi concernant les émissions, comment déconstruire les images stéréotypées et reconstruire une autre image, soit concernant la femme, soit concernant les jeunes, etc., et comment optimiser et comment donner surtout de l'espoir pour la société, toute la société. Toute tranche d'âge en même temps.
Vous portez aussi peut-être un regard sur les médias français, voire même européens. Est-ce que le sort des Tunisiens alerte assez les médias de ce côté de la Méditerranée, les médias français, européens ?
Les médias français, européens, est-ce qu'ils alertent un peu ? Moi, je vois pas. Je vois pas.
Il reste sous silence pour vous par rapport à
plus ou moins,
cette situation ?
Plus ou moins. Non, plus ou moins. De toute façon, tous les médias sont orientés, que ce soit en France, que ce soit même en Tunisie. Hein. Bon, il y a des analyses, etc., mais pour moi, l'essentiel, c'est que... Bon, pour moi, je fais partie d'un public avisé, mais pour d'autres, les médias manipulent l'information et peuvent créer la désinformation.
Et vous pensez que ça peut être dangereux dans...
Bien sûr.
D'où le lien que vous faisiez tout à l'heure entre l'éducation et les médias.
Oui, pour moi, je donne un rôle important aux médias publics. Pour les médias privés, je ne peux pas parce que les médias privés ont leur agenda, etc. Et je donne une importance un apport très important aux médias de proximité, les médias associatifs, les médias dans les régions, etc. Parce que ces médias ont un rôle très important et peuvent bien sûr créer l'opinion publique et peuvent orienter et peuvent éduquer, etc. Voilà.
On va se tourner vers l'avenir pour terminer, Fethia Saïdi. Est-ce que vous gardez tout simplement espoir, justement, en l'avenir?
Je garde toujours espoir. Je ne suis pas pessimiste. Malgré tout, je ne suis pas pessimiste et je crois que c'est une attitude à avoir parce que la vie continue même avec les obstacles, etc. Et demain fera jour. Hein.
La vie continue justement, mais quels sont les défis à relever aujourd'hui pour la Tunisie?
Les défis à relever, c'est trouver des solutions urgentes pour les jeunes concernant l'emploi, etc. Trouver des solutions pour la crise économique et en même temps être ensemble tous et toutes pour combattre l'esprit rétrograde, pour combattre l'intégrisme et pour combattre le terrorisme. Voilà.
Le printemps arabe a vu l'arrivée au pouvoir d'Ennahda, un parti islamiste. Est arrivé ensuite un parti centriste, Nida. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y avait beaucoup d'espoir, je crois, sur le parti centriste.
La situation politique est un peu compliquée en Tunisie parce que, après les élections de 2014, oui, il y a une idée, mais maintenant une idée s'est divisée en deux parties. Hein. Le 20, il y a eu un nouveau né qui est le Mashroua, qui est émané de cette division entre les militants de Nida. Il y a beaucoup, c'est environ 200 ou plus partis dans la sphère publique tunisienne. Il y a beaucoup d'effritements entre les centristes, entre la gauche, etc. Il y a l'effritement. Seul le parti Nahda, malheureusement, qui est un peu soudé. Mais cela ne veut pas dire que l'avenir peut être sombre, non. Peut-être il y aura... C'est une phase, je peux dire, en Tunisie, c'est une phase de décomposition, recomposition des partis. Il y aura des changements et il y aura d'autres coalitions qui peuvent mener l'affaire de toute façon, surtout avec bien sûr la solidarité de la société civile moderne.
La société civile, justement, certains réclament le retour de Ben Ali. Où en est la transition démocratique?
Certaines réclament le retour de Ben Ali. Wow, c'est le désespoir, tout simplement. C'est le désespoir parce que après 5 ans, il n'y a pas eu une avancée réelle dans la société. Il n'y a pas des résolutions réelles concernant les problèmes sociaux économiques dans la Tunisie. Au contraire, la situation s'est aggravée. C'est pour cela qu'ils réclament le retour de l'ancien président. Mais ce sont des vœux pieux. L'histoire ne peut pas reculer. On avance de toute façon. On avance. Même, j'aime pas ce mot printemps arabe. Parce que pour moi, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est un peu un mouvement social, comme le disait Alain Torrens, un mouvement social tourbillon. C'est un peu des protestations, etc., populaires, etc., autour des problèmes sociaux, civils, qui dénonçaient bien sûr la répression, qui revendiquaient les libertés, la dignité, et en même temps la justice sociale. Ces slogans qui ont été scandés lors du 14 janvier. Alors, tant qu'il n'y a pas des solutions et des résolutions concernant la justice sociale, il y aura toujours des hauts et des bas et il y a toujours des manifestations. C'est pour cela que je dis que nous vivons un mouvement social tourbillon et c'est bien le concept d'Alain Torrens, un sociologue français. Et c'est pour cela que j'aime pas révolution, je ne sais pas, j'aime pas pour moi, bien que tous les politiques disaient c'est une révolution, le printemps arabe, mais j'utilise pas ces mots, j'utilise les mots propres à la sociologie pour être égal à moi-même. Voilà.
Et votre formation politique à Al-Masar, la voie démocratique et sociale, peut être la solution pour aller de l'avant en Tunisie?
J'espère. De toute façon, j'espère. Mais le Massar, c'est un parti de gauche, moderne. C'est un parti qui incarne, bien sûr, les droits de l'homme, les droits de femmes. Mais malheureusement, il n'a pas un ancrage sociétal important. Et c'est pour cela que le Masar, pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir pour la Tunisie. C'est le seul parti, à mon avis, qui peut unir et rassembler les démocrates, les progressistes et la gauche. Peut-être il sera la colonne vertébrale pour la gauche nouvelle en Tunisie. Hein. Mais il faut beaucoup de travail pour ce parti. Nous n'avons pas les moyens, voilà. Nous n'avons pas les moyens financiers. Nous avons beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de justesse aussi pour pouvoir mener le combat.
Et d'optimisme également.
D'optimisme, bien sûr.
Fethia Saïdi, merci beaucoup.
Merci.
Adèle, merci également.
Merci.